French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Les consignes de sécurité vont vous être présentées. Nous vous demandons toute votre attention. Welcome on board, ladies and gentlemen. Please pay your full attention to the following safety instructions.
Moi, c'est Anne Fleur. J'ai toujours beaucoup voyagé, à la fois pour le boulot et pour les loisirs. Sauf depuis environ 18 mois. Avec l'arrivée de la pandémie, comme quasiment tous les habitants de la planète, j'ai dû arrêter d'un coup.
Quelques passagers sont encore présents, souvent en rapatriement. Il n'y aura plus aucun vol commercial possible sur l'aéroport parisien.
Restez chez vous.
Et puis, il y a quelques semaines, j'ai décidé de rentrer faire une visite surprise pour le mariage de ma petite sœur. Et je me suis retrouvée assez partagée. Surexcitée tout d'abord d'enfin retrouver ma famille, une fois les billets réservés, j'ai commencé à faire des cauchemars toutes les nuits menant à ce voyage. Moi qui n'avais jamais eu trop peur en avion, j'étais terriblement anxieuse à l'idée de me retrouver dans les airs au-dessus de l'océan. J'ai réalisé que cette peur pouvait être très handicapante pour bon nombre d'expatriés, mais aussi pour ceux qui voyagent pour le boulot et qui n'osent pas avouer leur peur, pour les grands-parents de nos enfants qui ont peur de monter dans l'avion pour venir rencontrer leur famille à l'autre bout du monde, ou encore pour les mamans qui doivent traverser la moitié du globe seules avec leur enfant en avion. Bref, les exemples ne manquent pas. Alors je suis partie à la rencontre du Centre de gestion du stress aéronautique d'Air France pour vous faire découvrir quelques moyens de mieux vivre ce stress. J'ai aussi discuté avec Anthony Deringer, un des invités de la saison 1, que l'expatriation avait permis de se reconvertir en pilote de ligne. Et ensemble, avec tous ces invités, nous essayons de vous proposer des techniques concrètes et des informations pour vous aider à mieux vivre votre prochain vol. Je vous souhaite une très belle écoute et un bon voyage. Pendant ce vol un peu compliqué que j'ai vécu il y a quelques semaines entre Boston et Paris, j'ai expliqué ma peur au personnel navigant. J'étais un peu timide, j'étais pas très fière de moi, j'avais même un peu honte de ma peur. Et en fait, ils ont été hyper sympas, hyper prévenants, ils sont venus me voir à plusieurs reprises pour s'assurer que j'allais bien, que ce vol n'était pas si douloureux que ça. J'ai même un pilote qui est venu me rendre visite pour me parler de l'avion. Et une fois sur la terre ferme, en sondant les abonnés de mon compte Instagram, plusieurs centaines de personnes m'ont avoué leur peur, leur anxiété à l'idée de reprendre l'avion après une longue période où l'anxiété tout court d'ailleurs a volé. C'est quoi la peur en avion ? On parle de stress aéronautique, on parle de peur de l'avion, on parle de peur en avion. De quoi il s'agit ? Je suis allée poser la question à Philippe Guéry, psychologue du Centre de gestion du stress aéronautique d'Air France, et personnel navigant commercial.
Quand on veut faire politiquement correct et sans trop se mettre de pression, on parle de stress aéronautique. C'est beaucoup plus de la peur. Et donc on parle de la peur de l'avion et non pas de la peur en avion. Il y a des gens qui ont tellement peur qu'ils ne le prennent pas. Donc ils ne sont pas dans l'avion, mais ils en ont peur. Comme on a peur de parler en public, comme on a peur des pigeons, comme on a peur du sang, comme on a peur des tunnels, de l'enfermement, on a peur de l'avion. Et donc les termes un peu plus scientifiques, c'est l'aérophobie. Et le vrai terme qu'on devrait employer, c'est aérodromophobie. Ce qui va déterminer l'appellation, c'est le niveau d'appréhension et surtout le niveau de handicap que ça représente pour nous.
Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu justement de ces différents niveaux d'appréhension? Et effectivement, vous utilisez le mot handicap qui est très fort. Comme vous le dites, il y a des gens qui, du coup, ne vont pas monter dans l'avion, qui vont se priver de pouvoir aller retrouver, j'en sais rien, leurs petits-enfants à l'autre bout du monde, d'aller au mariage de leurs frères, de leurs sœurs, dans un endroit qui est suffisamment lointain pour devoir y aller en avion. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu justement de ces différents niveaux de peur et de comment est-ce que ça peut impacter justement la vie des gens?
Alors, pour rester sur les expatriés, ça peut aller jusqu'à refuser une expatriation. Hein, donc on est dans un handicap très prononcé, et même ceux qui prennent l'avion dans des conditions terribles pour eux, moi je continue à parler de handicap pour eux, connaissant l'état dans lequel ça peut les mettre. Donc il y a plusieurs niveaux de peur, ça peut être une appréhension qu'on peut surmonter jusqu'à la phobie extrême, donc qui peut aller jusqu'à l'évitement absolu, c'est-à-dire qu'on ne prend pas l'avion du tout, on ne le prend plus ou on ne le reprend plus jamais à la suite d'un épisode avéré ou pas qui nous a marqué en tout cas. Les clients du centre anti-stress, on leur pose une question pour qu'ils évaluent leur niveau de peur de l'avion sur une échelle de 0 à 10. 0, j'ai pas peur du tout. 10, j'en ai une peur extrême. Dans près de 80% des cas, ils indiquent une peur située entre 7 et 10 sur 10. Donc on est, pour les personnes qui viennent, on est déjà à un niveau très élevé.
Est-ce qu'il y a différentes causes à la peur? Donc je disais en avion, mais c'est de l'avion. Je me corrige maintenant. L'avant, le pendant. Quelles sont ces différentes causes et est-ce qu'elles se soignent toutes? Ou est-ce qu'on parle de soigner d'ailleurs?
Alors, on parle pas de soigner parce que c'est pas une maladie. Hein. L'avion, pour beaucoup, est un catalyseur. Quand on leur demande s'ils ont peur de l'avion, il y a 40% des personnes qui évoquent aussi un problème d'enfermement, une difficulté avec l'aéroport lui-même. On cible l'avion parce que c'est un objet très emblématique. En fait, autour de l'avion, il peut y avoir la peur du vide, c'est ce que vous pensiez de prime abord et vous aviez raison. Ça peut être beaucoup l'enfermement. Les tunnels, les trains, voilà. Donc il y a ces peurs-là, la peur de tout ce qui tient à l'enfermement, la peur du vide. Très concrètement, et c'est le top one, la peur des turbulences, tomber, que l'avion s'écrase ou fait des turbulences, la peur du crash évidemment. Selon les événements autour de l'avion, la peur des attentats augmente ou diminue. Beaucoup la peur d'avoir peur. J'ai peur de faire une crise de panique, j'ai peur de faire une crise d'angoisse, j'ai peur de ne pas résister aussi longtemps si je reste tendu pendant 10 heures de vol. Vous voyez, donc il y a ce drôle d'endroit, ce drôle d'objet sur lequel on cristallise beaucoup de choses. Et puis quand on scrute un petit peu, qu'on discute avec les personnes, ce qui était mon job pendant 12 ans, on ouvre sur quelque chose qui est quand même plus large, avec comme point d'orgue aussi, ce besoin irrépressible, impérieux de contrôler qu'évoquent 80% des personnes qui disent avoir peur de l'avion. Elles ont essentiellement peur de l'avion, en gros parce qu'elles ne sont pas aux commandes. D'où l'intérêt de les amener à travailler sur une autre dimension que purement la connaissance aéronautique, par exemple.
Donc en gros, ce que j'en comprends, c'est que comprendre comment marche l'avion, comment on vole, comment l'avion ne peut pas tomber, eh ben, ça ne sert pas à grand-chose et qu'il est important d'investiguer d'autres manières de se sentir bien à bord. On va y revenir dans un instant. Je me permets juste de rebondir rapidement sur ce que Philippe Guéry vient de dire.
Vous savez, ça me fait penser à mon expérience de voyageuse plus récemment, depuis que je suis devenue maman, je suis un peu plus peureuse en avion. Et je me rends compte qu'en fait, cette histoire de lâcher prise, si j'ai quelqu'un ou que j'ai personne à côté de moi, en fait, je vais regarder un film, mais l'écran à côté de moi, c'est... je vais vérifier en fait l'altitude en permanence alors que je peux rien y faire.
Ouais, voilà. Voilà. Alors,
mais j'ai besoin de...
C'est ça. Donc, la question, c'est depuis quand ? J'étais pas comme ça avant. C'est ça, j'ai entendu ça des milliers de fois. Et la question, c'est avant quoi ? Avant quand ? Donc avant d'être maman, avant d'être papa, avant de m'être marié, avant d'avoir divorcé, quand j'ai perdu mon grand-père, la promotion de mon job. Encore une fois, la notion des explications sur le stress, l'anxiété et jusqu'au bout du lâcher-prise, comment se sécuriser autrement que dans la planification absolue, nous amène à aborder effectivement cette notion de stress élémentaire, qui est une ressource géniale mais qu'on utilise très mal, puisqu'elle se déclenche plutôt de travers, au moindre changement. Voilà. Et même quand on est sur des changements plutôt heureux, comme la maternité, hein, sur des changements plutôt planifiés, peut-être comme la maternité aussi, etc. etc. Voilà pourquoi on ne dit pas qu'il y a du bon et du mauvais stress, contrairement à la formule employée, il y a du stress tout court.
En discutant avec un bon nombre d'expatriés francophones autour du monde en préparation de ce reportage, j'ai remarqué qu'une des peurs prépondérantes, c'est la peur des turbulences. C'est l'inconfort total pendant ces turbulences, ces moments où l'avion secoue un petit peu. On a beau le savoir, l'avion est fait pour y résister. C'est pas très très agréable. Alors j'ai demandé à un pilote, Eric Adams, pilote de Boeing 777, commandant de bord, et l'un des membres historiques du Centre de gestion du stress aéronautique d'Air France, de nous expliquer tout simplement qu'est-ce que c'est une turbulence en fait.
Alors, les turbulences, c'est quelque chose de finalement assez simple. C'est exactement comme des vagues pour un bateau et c'est exactement comme des pavés pour une voiture. La différence, c'est que ces turbulences sont provoquées par les courants d'air. Et le problème avec les courants d'air, ou l'handicap, ou l'inconvénient des courants d'air, c'est que le courant d'air est invisible, on ne le voit pas à l'œil nu. Tandis que la vague, on peut voir dans le bateau, le pavé, on peut voir un petit peu à l'avance. Ce qui veut dire que dans l'avion, on n'a pas beaucoup d'anticipation sur la présence des turbulences. Dans un bateau, on peut voir une grosse vague qui arrive. Donc, du coup, le passager, bah, il se cramponne, il se prépare. L'équipage peut prévenir les passagers qu'il y a une grosse vague dans le bateau. Et donc, on est préparé. La voiture, c'est un peu pareil. Mais avec le courant d'air qui est invisible, bah, parfois, c'est d'un coup, il y a un courant d'air. Donc, ces courants d'air vont faire bouger l'avion dans le plan vertical, exactement comme la vague bouge le bateau dans le plan vertical, comme le pavé bouge la voiture dans le plan vertical. Dès que l'avion bouge dans le plan vertical, bah, le pilote le voit sur les instruments de vol. Donc, du coup, on revient sur l'altitude. Donc, du coup, l'avion, il sera donc secoué. L'avion va monter un peu, descendre un peu, monter un peu, exactement comme le bateau sur une vague. Donc, quand je dis qu'il bouge un petit peu, il va bouger de quelques mètres. Il va bouger verticalement de quelques mètres. Mais avec les sensations du passager qui est à l'arrière, donc quand on est à l'arrière, on est un peu à l'aveugle. On ne voit pas les instruments de vol du pilote. On a l'impression que l'avion descend de, je sais pas, 1000 mètres, 2000 mètres. Mais puisqu'on n'a pas d'instrument qui le dit, ben, c'est peut-être pas la vérité, quoi. C'est exactement comme la voiture quand vous êtes sur l'autoroute. Vous êtes à 130 km/h ou bien chez vous à 55 miles per hour et vous passez un camion et le camion vous envoie du vent. La voiture va bouger sur la route, mais la voiture ne quitte pas la route. La voiture ne fait pas de tonneau et quitte la route. Mais dès que le chauffeur de la voiture voit que la voiture se déplace sur la route, bah avec le volant, on va redresser la trajectoire. Et on reste toujours sur la route, mais on bouge un petit peu sur la route avec ce vent qui est en provenance du camion. Et donc, du coup, l'avion, c'est exactement pareil, mais dans le plan vertical. Et surtout pour le passager, bah, il ne voit pas d'une manière numérique ce que fait l'avion parce qu'il n'y a pas des instruments de vol devant lui. Et il ne voit pas les courants d'air dans le ciel parce que c'est invisible. Et donc, du coup, puisque c'est l'inconnu qui fait peur, effectivement, bah, quand on ne sait pas, bah, on imagine beaucoup de choses.
Pourtant, ça arrive que le pilote, par exemple, dise, bon, bah voilà, dans, par exemple, en départ de Boston, généralement, c'est quand on passe la Nouvelle-Écosse et qu'on s'engage sur l'Atlantique, on se prend tous les streams et c'est là qu'on sait qu'on va avoir des turbulences. Donc, on peut quand même les anticiper un petit
Alors,
peu.
Alors, ce n'est pas « je sais que j'aurai de la turbulence », c'est que oui, il y a peut-être des zones de turbulence prévues, peut-être. C'est comme un bateau sur un courant d'eau, hein. Quand on est dans une rivière, on peut avoir beaucoup de courants dans la rivière, mais s'il n'y a pas de vagues dans la rivière, bah, le bateau ne sera pas secoué. Par contre, s'il y a beaucoup de vagues dans la rivière à cause des cailloux ou des choses comme ça, bah, le bateau, il sera secoué. Donc, nous, avec le jet stream, qui est un courant d'air dans le ciel, effectivement, on peut parfois avoir de la turbulence liée s'il y a des courants d'air verticaux dedans, mais c'est pas systématique. Donc, du coup, quand on anticipe, quand on dit au passager qu'il va avoir de la turbulence, c'est peut-être parce que en vol, l'avion qui est devant nous, 20 minutes devant nous, par exemple, lui a subi de la turbulence, que lui, il informe aux autres avions ou bien la tour de contrôle, et ça permet à nous de peut-être savoir anticiper. Mais avec le jet stream, on n'a pas de moyen de savoir de manière certaine qu'il y aura la présence de turbulence. On peut anticiper en pensant que peut-être qu'il y aura la turbulence, donc du coup, on demande à ce que tout le monde soit assis, mais ce n'est pas une certitude à moins qu'il y ait un avion qui est passé devant. Pour anticiper la turbulence, il y a juste une possibilité de voir d'une manière indirecte la turbulence, c'est avec l'orage. Parce que dans le nez de l'avion, nous avons un radar météo. Ce radar météo voit ou détecte la présence de gouttes d'eau dans le ciel. Ce qui veut dire que s'il y a beaucoup de gouttes d'eau dans le ciel, c'est qu'il y a beaucoup de pluie. S'il y a beaucoup de pluie, c'est qu'il y a beaucoup de courant d'air. S'il y a beaucoup de courant d'air, c'est qu'il y a beaucoup de turbulence. Donc du coup, avec le radar météo, on peut voir d'une manière indirecte. On est d'accord, on voit la pluie, mais on ne voit pas la turbulence. Donc on déduit la présence de turbulence avec le radar météo pour l'orage. Et là, on peut voir ça 20 à 30 minutes à l'avance. Et donc du coup, là, on peut anticiper pour les passagers de s'asseoir, de s'attacher. Parce que quand on rentre dans l'orage, il y a beaucoup de courant d'air ascendant qui alimente le courant d'air descendant de la pluie. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de courant d'air concentrés, très rapprochés les uns par rapport aux autres. Et c'est un peu là, dans les orages, qu'on aura plus de sensations de turbulence. Mais avec la radio météo, on peut voir, mais encore une fois, d'une manière indirecte, la présence de turbulence liée avec l'orage.
Ok, donc là je descends de l'avion et je commence à vérifier donc l'avion, je vais vérifier que les ailerons ne soient pas bloqués, tout a l'air correct. Ensuite j'arrive sur le bout d'aile, je vérifie que les lumières sont allumées, que les lumières fonctionnent. Ensuite j'arrive sur la partie moteur, bien sûr comme une voiture on vérifie qu'il y a assez d'huile. Je vais récupérer un échantillon d'essence et je vais vérifier que l'échantillon ne porte pas d'eau. J'arrive sur le train d'atterrissage maintenant, le train avant gauche, et là que je vais vérifier l'état des plaquettes. Je vais vérifier aussi l'état des pneus, donc là on a un pneu tout neuf, bien gonflé. Et ensuite j'arrive sur l'autre aile, donc la même chose.
Je ne pouvais pas continuer ce reportage sans parler à Anthony. Anthony a été mon invité dans la saison 1 du podcast. Il nous parlait de son expatriation, de comment il avait rencontré l'amour alors qu'il était parti en Chine et qu'il est depuis devenu américain comme moi, et comment cette expatriation l'avait permis de se réinventer professionnellement. Il était devenu pilote de ligne. Alors forcément, il a complètement sa place dans cet épisode. J'avais rendez-vous avec lui il y a 5 minutes. On va voir, j'espère qu'il n'est pas trop énervé par mon retard. Salut ! Ça va ? Désolé pour le retard.
Non, t'inquiète. Ok. Do we need a clap? Quelque chose comme ça.
Action. Non, c'est bon, t'inquiète. Est-ce que tu peux nous parler de la formation pour devenir pilote? Oui, tu faisais un autre métier avant, mais tu t'es pas non plus complètement découvert une fascination pour le pilotage à l'âge de 30 ans. C'est quelque chose aussi que t'as nourri depuis ton enfance. Tu peux nous raconter un petit peu?
J'ai toujours été fasciné par l'aviation depuis tout petit, juste parce que mon papa est pilote déjà, pilote privé en France. Et du coup, moi, je baignais dans l'aviation dès le départ. On partait en vacances tout le temps en avion. C'est lui qui pilotait, ma maman qui faisait la navigation.
C'est génial.
Et nous, les enfants, on était derrière, on attendait, on regardait passer le paysage. Et pour nous, c'était normal, quoi. Bon. J'ai compris que c'était pas normal plus tard, surtout quand j'ai commencé à payer l'avion. Pas ouais. Ça, c'est... Mais ouais, donc j'ai eu la chance que mes parents me payent la formation de pilotage en France. Donc c'était juste une formation privée. Donc ça te permet d'être juste pilote privé. Pilote privé, ça te permet de louer un petit avion, 4 places, peut-être même 6 places. Et puis en France, tu peux faire déjà des trucs sympas. Hein.
Ça ressemble à quoi du coup cette formation? En l'occurrence, c'est un nombre d'heures de pilotage. J'imagine qu'il y a beaucoup de théorie, il y a beaucoup de pratique.
Ouais.
Comment ça se passe?
En fait, c'est comme un permis de conduire. Hein. Tu vas dans une auto-école, là tu vas dans un aéroclub. De mémoire, je crois en France, c'est 45 heures de double commande, donc en double, hein, comme en auto-école. En général, s'il faut un peu plus que ça. La moyenne doit être à 60-70 heures, donc un peu plus qu'une voiture quand même. Et la théorie derrière, en général, tu peux tout faire à la maison. Tu as des bouquins, tu as des sites internet, des vidéos, Et bien sûr, après, t'as un examen théorique, t'as quand même une formation à faire avec un instructeur, mais tu peux quand même faire la grosse partie chez toi. Ça peut très bien se faire en... Tu vois, aux États-Unis, j'ai réussi à... Parce que j'étais instructeur, enfin, je le suis toujours. J'ai formé des élèves en un mois. Et c'est quand même relativement hard.
C'est intense.
Un mois, tu voles tous les jours. Ouais, c'est très intense, c'est rare, mais ça peut se faire. Et sinon, si tu vas tranquille le week-end, etc., en un an ou deux ans, tu peux faire déjà ta formation et ça réduit... Enfin, tu payes moins cher, enfin, tu payes moins d'un coup, donc c'est quand même plus raisonnable. Mm-hmm. Et tu voles tous les week-ends et voilà. Donc ça, c'est en général ce que font les pilotes privés en France quand tu cherches pas à être pilote pro. Et ouais, voilà, ça se fait. Ça se fait très bien. Et après, tu peux louer un avion. Et
la théorie dont tu parles, tu fais une analogie avec le permis de conduire. J'imagine que c'est un peu plus compliqué que le code de la route.
Ouais, oui, bien sûr. Non, mais c'est sûr. Mais c'est pas forcément hors d'atteinte. C'est, ça se fait. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Il y aura un peu plus de maths, un petit peu plus de ça. Mais n'importe qui peut arriver, même quelqu'un qui n'est pas forcément très matheux. Il faudra peut-être un peu plus de travail, mais il y a juste beaucoup de choses à savoir, mais c'est pas compliqué, quoi. C'est juste qu'il faut le savoir.
Très bien. Alors, donc, une fois que tu es pilote privé, à quoi ça ressemble la suite pour devenir pilote de ligne ?
Alors, moi, je vais parler de la formation aux États-Unis, parce que la formation en France, j'ai un peu déconnecté. Je sais qu'elle est un peu différente, elle est plus chère. Bon, elle est vraiment différente, mais la formation aux États-Unis, elle est beaucoup plus simple. Et en fait, après ça, donc, tu vas passer ton instrument rating. Donc en gros, c'est un vol aux instruments. Donc au lieu de juste voler à vue, parce que moi, quand je suis pilote privé, je vole à vue, je regarde dehors, je regarde les nuages, je regarde tout ça, et je vole comme ça. Après, quand on commence à être un peu plus pro, on va passer vol aux instruments. Donc là, c'est-à-dire qu'on peut commencer à vraiment ne plus regarder dehors, tu vois. Par exemple, si t'es dans le brouillard, si t'es dans les nuages, tu peux totalement y aller. Et là, tu es vraiment concentré dans tes instruments et tu voles vraiment 100% des instruments. Donc ça, c'est une formation qu'il faut faire en plus. C'est une quarantaine d'heures de vol et ça te permet vraiment d'ouvrir tes horizons. Parce que bon, en Californie, je t'avoue qu'on a quand même sacré météo. Donc on a jamais trop besoin de ce vol aux instruments, c'est assez rare. Mm-hmm. Mais j'imagine que plus chez toi ou dans d'autres régions des États-Unis, la météo n'est pas forcément tout le temps géniale. Et le fait d'avoir ce vol aux instruments, même en tant que pilote privé, ça te permet d'élargir tes horizons et de pouvoir voler quand normalement tu ne pourrais pas voler quand tu es volé à vue, quoi. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et de toute façon, c'est celle qui est le plus importante pour un pilote de ligne, puisque le pilote de ligne, il ne vole jamais en regardant dehors, quoi. C'est tout dans les instruments, bien sûr. Mm-hmm.
Tu as fait cette dernière ou tu la commences cette dernière
Oui, non, je l'ai déjà. Ouais, alors moi je l'ai déjà fait depuis 2 ans parce que de façon à être instructeur, il faut avoir cette formation-là. Après, en fait, ce que je vais commencer donc la semaine prochaine avec SkyWest, c'est une formation plus sur la machine en fait. À partir du moment où tu voles sur des grosses machines, chaque machine a une qualification précise et tu fais une formation de 2 mois sur cette machine. Donc là, c'est ce que je vais faire.
D'accord. Et tu vas voler sur quoi, alors ?
Donc là, je vais voler sur un Canadair CRJ 200, 700 et 900. Pour donner un ordre d'idée, c'est un jet de 50 à 80 places. Ouais. Voilà. Mais aux États-Unis, on a une énorme flotte de CRJ 200.
Et pour avoir une idée, on parle de toutes ces formations, mais ça représente quoi en volume d'heures, par exemple, de vol, la formation nécessaire pour devenir pilote de ligne ?
Ça change énormément si tu es en Europe ou si tu es aux États-Unis. Je vais parler des États-Unis et en fait... tu peux pas aller dans une compagnie aérienne aux États-Unis si tu n'as pas un minimum de 1500 heures de vol.
C'est
énorme.
Ah ouais.
Énorme parce que, donc tu vois, quand tu fais toute ta formation de pilote de A à Z, tu vas finir avec 250 heures de vol. Et du coup, tu as encore 1250 heures de vol à faire et c'est énorme.
Je me permets un tout petit aparté. Si pour vous, comme moi, 1500, 1250 heures, ça ne veut pas dire grand-chose, je vous ai fait le petit calcul. Ça représente 52 jours, 1250 heures de vol. Ça représente 52 jours, donc de 24 heures, hein, jour complet de vol.
Mais ouais, donc c'est 1500. Donc imagine, donc tu fais ta formation, ça va prendre 1 an, 2 ans si vraiment tu fais ça en condensé. Et il te reste encore 1200 heures à faire. Donc... aux États-Unis, la plupart des gens, on va dire que 80-90% des gens, ils deviennent instructeurs et en fait, ils vont commencer à loguer des heures en faisant de l'instruction. Et en fait, on se rend compte qu'en enseignant, on apprend énormément.
Ouais.
C'est un truc de dingue. Et ça marche plutôt bien comme ça. Et au bout de 1500 heures de vol, en général, les pilotes vont en compagnie. Donc c'est ce qui s'est passé avec moi. Là, maintenant, avec le Covid, je suis plutôt à 2200 heures de vol. Mmh. Mais sans Covid, je serais rentré à 1500 heures de vol là-bas. Quoi. Voilà. Et donc ça, c'est aux États-Unis. Et ça, c'est le cas depuis 10 ans. Avant ça, en fait, on était comme en Europe. En Europe, il n'y a pas de minimum d'heures de vol autre que toutes les formations à faire. Donc on est plutôt autour de 250 heures, 300 heures de vol. Et tu peux être pilote de ligne, donc tu seras en place droite dans un Airbus A320 en France ou en Europe avec 300 heures de vol.
Mesdames et messieurs, vous pourrez vous déplacer dès l'extinction de la consigne « Attachez votre ceinture ». Cependant, nous vous recommandons de maintenir votre ceinture de sécurité attachée lorsque vous êtes assis, les turbulences pouvant se produire.
Et concrètement, s'il y a un truc qui casse, s'il y a un truc qui marche plus, si le moteur tombe en panne, il y a matière à s'inquiéter dans l'avion ?
Sur l'avion, tout est doublé. Il y a toujours deux moteurs, voire trois moteurs, voire quatre moteurs. Il y a au minimum deux moteurs sur les avions de ligne. Ce qui veut dire que si un moteur tombe en panne, l'autre moteur soutient l'avion pour le vol. Il y a également deux pilotes. Il y a plusieurs hôtesses et stewards. Donc, tous les instruments de vol sont doublés, voire triplés. Et effectivement, en cas de panne, on est formé pour traiter la panne. En fonction de la situation. Donc, suite au retour d'expérience depuis quand même maintenant l'avion vole depuis à peu près 130 ans ou 125 ans, avec le retour d'expérience, les instruments sont doublés, les équipements sont doublés et on a la formation pour effectivement traiter les pannes. Et c'est ce qu'on traite également dans le simulateur. On fait une démonstration dans le simulateur de panne moteur pour expliquer aux passagers comment on fait pour traiter la panne. On le fait en contrôle mutuel entre les pilotes, on le fait avec les hôtesses et stewards également en cabine. Et ensuite, on refait une panne après le décollage pour que les stagiaires voient le comportement de l'avion vis-à-vis de la panne.
Et alors, justement, d'ailleurs, ça me fait penser à un autre facteur de peur, c'est la peur en fait que, boum, l'avion tombe. Vous le disiez, c'est comme des vagues et c'est vraiment ça, finalement, l'air. L'avion tombe pas, l'avion surfe en fait un petit peu.
Exactement, exactement. C'est très bien comme analogie. Il faut pas oublier que l'humain sait marcher, l'humain sait nager. Mais l'humain ne sait pas voler. Ce qui veut dire que ce n'est pas notre milieu naturel de l'humain d'être à 10 000 mètres d'altitude, ce qui veut dire qu'on est forcément nerveux parce que ce n'est pas notre milieu naturel. Ce qui veut dire que notre instinct de survie de l'humain, le reptilien en nous, qui ne comprend pas très bien ce qui se passe, nous met mal à l'aise ou qui augmente le stress pour qu'on ne prenne pas l'avion parce qu'il essaie de nous sauver un peu. Donc, du coup, notre reptilien étant en l'air, il a deux peurs, effectivement, que l'avion tombe. Soit l'avion tombe parce qu'il est penché trop, mais en fait, c'est comme le surfeur ou bien c'est comme le nageur plus précisément. On peut nager sur le ventre, on peut nager sur le dos, on peut nager sur le côté et on ne tombe pas dans l'eau parce qu'on est soutenu par les molécules d'eau. Donc, l'avion, en fait, c'est pareil. Il est soutenu par ces molécules d'air. Quand malheureusement pour l'humain, on ne voit pas ces molécules. Et c'est pour ça qu'un avion de voltige, par exemple, il peut voler sur le dos, sur le ventre, sur le côté, il ne tombe pas. La deuxième chose qui fait peur également chez l'humain, c'est qu'effectivement, si le moteur tombe en panne, on a peur que l'avion tombe. Mais en fait, si on réfléchit un peu plus, quand on explique en stage, c'est que l'avion est soutenu par les ailes et non pas par les moteurs. Ça veut dire qu'un planeur, si on prend une photo d'un planeur, on voit très bien que le planeur n'a pas de moteur. Il va voler sur les courants d'air. Si on prend un deltaplane, le deltaplane n'a pas de moteur. Le deltaplane ne va pas tomber parce qu'il va voler sur les courants d'air grâce à l'aile. Donc, c'est bien l'aile qui soutient l'avion. Si le moteur tombe en panne, l'avion ne va pas tomber.
Voilà, je vais être tout à fait honnête avec vous. Ces différents entretiens m'ont fait énormément de bien en préparation d'un futur vol dans vraiment quelques jours à peine. La raison pour laquelle j'ai contacté le centre de gestion du stress aéronautique d'Air France, c'était ce stage apprivoiser l'avion. Mais sans aucun jugement pour ceux qui le font, je me disais, initialement en tout cas, que essayer d'apprivoiser ma peur, c'était impossible, que ça marcherait certainement pour les autres, mais pas pour moi. Du coup, j'ai voulu demander à Philippe Gury, qui est donc psychologue et l'ancien responsable pédagogique du centre, de me parler de ses plus grandes victoires, en fait. Quelles ont été des exemples de personnes qui ont réussi à conquérir leur peur pour en faire quelque chose et que ce ne soit plus un handicap, pour pouvoir reprendre le voyage?
J'ai deux exemples en tête. Une personne qui vient me voir après 45 ans d'évitement de l'avion.
Waouh.
Donc c'est une femme d'une soixantaine d'années, même un petit peu plus, qui empile les phobies les unes sur les autres, qui va jusqu'à refuser d'être anesthésiée quand elle doit subir des opérations parce qu'elle a peur de ne pas se réveiller. Des, vraiment des psychopathologies extrêmement lourdes, handicapantes, qui l'amène depuis Marseille à aller en Turquie en voiture, en évitant les tunnels ou les ponts selon l'état de ses phobies, et qui reprend l'avion.
Limite, là, j'aurais pu en fait arrêter l'enregistrement, j'aurais pu arrêter le podcast, puisqu'en fait, on a juste démontré que la peur, c'est un truc qu'on peut combattre. C'est un truc qu'on peut surmonter, même les phobies, même les pires phobies. 45 ans de peur monstre sans monter dans l'avion et réussir à le faire maintenant. Je trouve ça complètement incroyable. Et moi, perso, ça me donne énormément d'espoir quant à ma vie de future voyageuse.
L'autre souvenir qui m'est très agréable et puis qui rentre bien dans le cadre de votre émission à vous, il est devenu expatrié, un jeune type que j'ai rencontré quand il avait 17 ans. Là aussi, une grosse phobie des transports en commun, une phobie scolaire qu'il a déscolarisée pendant 2 ans. Et puis, avec l'aide d'un psychothérapeute, il remonte petit à petit pour avoir à peu près réglé sa phobie sociale, scolaire et sociale, à peu près réglé sa phobie des transports, avec comme dernier écueil l'avion. Donc on travaille ensemble pour l'avion, avec des hauts et des bas. À chaque fois que je le rencontre, je suis bluffé par son dynamisme, ses motivations. Et quelquefois, il va même trop vite en besogne parce qu'il est capable de se lever un matin et de décider de prendre l'avion pour aller au Canada, pour se tester. Il y a toujours un intérêt intellectuel ou autre, universitaire. Mais voilà. Et un jour, je l'avais perdu de vue depuis un an ou deux. Il m'appelle, il me dit « Philippe, je suis bloqué à Sao Paulo. J'ai voulu reprendre l'avion, ça faisait un an qu'il ne l'avait plus pris. Il avait fait un périple en Amérique du Sud, il avait fait Buenos Aires, Rio. Et là, attaque de panique sur attaque de panique, il se sent dans l'incapacité de reprendre l'avion. Il regarde les avions et le remplissage, parce que pour lui, avec sa claustrophobie, ce qui était important, c'était la manière dont l'avion était plus ou moins rempli. Il s'aperçoit que les avions qui rentrent en France depuis Sao Paulo sont moins remplis. Donc il prend un bus pour aller de Rio à Sao Paulo. Il m'appelle. Là, je me débrouille pour me mettre en contact avec l'équipage qui est là-bas et qui fait le vol du soir. Je le recontacte en lui disant « Écoute, je te garantis que si tu arrives jusqu'à l'aéroport, jusqu'à la salle d'embarquement, l'équipage va te prendre en charge. Je leur ai parlé de toi. Ils se sont engagés auprès de moi pour te venir en aide. » Donc ça s'est extrêmement bien passé. Et puis les liens se sont un peu détissés comme ça d'année en année. Ça fait donc 2 ans que je ne suis plus aux manettes. Et en étant sur LinkedIn, hein, je vois un petit message de ce type-là et qui me demande de me connecter à son réseau. Donc ce que je fais bien volontiers, on échange et j'apprends qu'il travaille pour une organisation internationale et qu'il est chargé, je ne sais plus si c'est l'ONU, enfin des grandes instances comme ça, qu'il est chargé de s'assurer du respect des accords de paix qui sont passés dans certaines zones du monde où il y a des guérillas. Voilà, donc un type que j'ai rencontré pour sa phobie de l'avion, et bien au-delà, qui travaille dans les relations internationales et qui prend l'avion, avec quelques difficultés, mais qui le prend quand même, voilà, ça c'est vrai que c'est... je peux presque plus parler de fierté que de victoire, parce que ça me touche plus dans le travail qu'on a fait ensemble.
Donc en gros, comprendre comment un avion fonctionne, comment ça décolle, comment ça vole, qu'est-ce que c'est les turbulences, c'est bien, mais ça fait pas tout. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec deux PNC. PNC, personnel navigant commercial. Paolo Chavez, dans un premier temps, qui est également sophrologue.
Et avec lui, on discute du moyen, en fait, de la sophrologie comme moyen pour mieux vivre son vol. Je vous propose tout d'abord qu'on fasse un petit tour des définitions. De quoi s'agit-il ?
La sophrologie, en fait, c'est une technique, une approche donc, psychocorporelle qui va travailler donc, au niveau mental et au niveau physique. L'idée, en fait, c'est de permettre à la personne de prendre conscience en fait, d'un certain nombre de capacités qu'elle a donc, et de pouvoir les activer au moment où elle en a besoin. Ces sensations qui sont désagréables à sentir, donc liées à la peur. Dans le cadre de la gestion du stress, en fait, ça peut être des indicateurs. Ce sont des indicateurs qui vont nous dire que là, on est en train d'entrer dans un état qui n'est pas l'état habituel dans lequel on se sent bien. Si on se met à l'écoute de ça, ça va nous donner la possibilité, du coup, d'avoir une action appropriée pour répondre aux besoins. On a tendance à vouloir mettre ça sous le tapis. Mais en gestion du stress, gestion des émotions, c'est quelque chose qui va être utile. Donc l'idée, c'est pas de rester dans ce ressenti désagréable, bien au contraire en fait, c'est de sentir le plus tôt possible dès qu'il y a quelque chose qui change au niveau du ressenti. Et ça, on l'apprend à force de pratiquer des exercices, de revenir à soi et de mieux se connaître dans son mode de réaction. Et à partir de là, en effet, dès que je sens que je reconnais des sensations ou des comportements ou alors une sorte de manière de penser, d'agitation mentale qui sont donc liées à ma peur. À partir de ce moment-là, je peux me dire « Ah, hop, 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 je suis en train de repartir dans la peur. Est-ce que j'ai envie de ça ? Non. Les stagiaires qui viennent nous voir, ils ont clairement envie d'autre chose. Du coup, l'idée, c'est de dire « Bon, ben, ok, là, maintenant, j'ai des outils. » J'ai des connaissances qui peuvent me permettre de basculer sur autre chose et de retourner vers un ressenti ou un état de confiance, de sécurité. Et du coup, de pouvoir tout de suite stopper en fait, cette réaction et avoir une réponse beaucoup plus adaptée en fait, et qui répond à un besoin.
Et concrètement, on a besoin de quoi alors quand on exprime cette peur ?
Nos stagiaires, quand on leur pose la question, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de se sécuriser. Donc à partir de ce moment-là, voilà, dès qu'ils sentent que la peur commence à se manifester, du coup, qu'ils aient cette conscience de dire « Ah tiens, je reconnais ma peur, mais en fait, j'ai pas envie de rester là-dedans et j'ai pas envie d'alimenter cette peur en continuant à me raconter des films sur ce que je risque de vivre et tout ça. Je vais chercher à activer justement des capacités, des ressources qui me permettent de me sentir de nouveau en confiance, rassuré.
Alors, le matin de ce fameux vol Boston-Paris, le vol qui allait me ramener en France après si longtemps loin des miens, j'ai fait une crise d'angoisse en faisant mes valises. J'avais mon mari qui me racontait plein de trucs, qui était très sympa d'ailleurs, qui m'aidait à faire mes valises. Et je lui ai demandé de se taire. Je suis allée m'enfermer dans une pièce. Je me suis dit, ok, il doit y avoir quelque chose pour m'aider. C'est pas possible que je me rende aussi malade par rapport à ce vol. Et donc, je me suis enfermée, j'ai mis mes écouteurs et j'ai lancé en fait une séance de sophrologie que j'ai trouvée tout simplement en tapant peur de l'avion sur YouTube et en cliquant sur un des premiers résultats. J'en avais jamais fait de ma vie, et pour être tout à fait honnête, quand je me suis allongée sur le canapé de ma sunroom, j'ai énormément de mal avec le lâcher prise, mais j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans. Et c'est peut-être d'ailleurs un conseil intéressant à garder en tête, ne pas prévoir 3 minutes pour faire une séance de sophro, mais s'assurer, je sais pas, qu'on a 10-15 minutes pour rentrer dedans et se laisser aller, quoi. En tout cas, j'ai adoré. Et ce que j'ai trouvé génial, je suis pas du tout une experte en sophrologie, mais en tout cas, les quelques petites choses que j'ai apprises pendant cette séance in extremis en période de crise m'ont été hyper utiles puisque j'ai amené ces outils que j'avais appris et que j'ai pu ressolliciter quelques heures après quand la peur s'est manifestée dans l'avion.
Tous les exercices de sophrologie sont adaptables. L'idée, c'est de coller au plus près donc, de ce que vivent nos stagiaires, de manière à ce qu'ils puissent appliquer ces exercices in vivo. On va pas leur faire des grands mouvements dans l'avion, ce genre de choses. Un passager qui a peur dans l'avion, généralement, qu'est-ce qui se passe ? Il va s'agripper aux accoudoirs, au dossier qui est devant lui. Donc l'idée, c'est de partir de là, de cet état-là, et du coup, de pouvoir utiliser donc des exercices, par exemple, comme un contracté relâché très simple, où on va inviter la personne à inspirer, à bloquer sa respiration, à contracter légèrement tous les muscles de son corps, et puis à souffler en relâchant. À partir de ce moment-là, déjà, elle redevient active de ce qu'elle est en train de vivre. Elle reprend la main. Elle donne aussi une information à son cerveau en lui disant bah, « Ok, je reprends la main, là. C'est bon. Tu n'es pas obligé de rester en mode réactif automatique. » Et puis, elle va créer une courbe ondulatoire entre tension, relâchement, tension, relâchement, tension, relâchement, ce qui va faire qu'elle ne va pas arriver dans cet état où elle va se remplir de tension jusqu'à un moment exploser en crise de panique. On leur propose aussi un outil de respiration abdominale, donc relaxante, pour revenir, une fois qu'ils ont évacué toutes ces pressions, qu'ils ont fait le vide par rapport aux tensions, de pouvoir stabiliser justement le calme, le relâchement par un exercice de respiration ventrale qui est extrêmement simple, où on leur propose de mettre simplement leurs mains sur leur ventre, d'inspirer profondément pour venir gonfler ce ventre et puis de souffler tout doucement. Donc voilà, en étant vraiment à l'écoute des sensations, ce qui fait que déjà dans un premier temps, eux, ils vont concentrer leur attention plutôt là-dessus que sur ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, au niveau corporel, dans le simple fait d'expirer doucement, ça va réguler la cohérence cardiaque et puis ça va diminuer donc, la fréquence.
Ce que Paolo me dit, c'est qu'une partie de la sophrologie, des outils proposés par la sophrologie, c'est de la relaxation dynamique, consciente de notre corps. Mais c'est pas tout.
Et puis ensuite, on travaille avec un autre type d'exercice qui est de la visualisation mentale. Donc où on va dans un premier temps inviter la personne à se détendre, donc en la guidant dans un processus de détente corporelle du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Et puis dans cet état de détente, donc où il y a moins de vigilance, où je suis dans un état beaucoup plus de calme profond, on va dire, on va l'inviter en fait à visualiser. Donc dans le cadre des stages, les attentes sont, j'ai envie de dire, à 99% me sentir plus serein en avion. Donc du coup, on va les inviter à visualiser une image qui leur évoque la sérénité, de porter leur attention là-dessus et de voir ensuite quels sont les effets que cette image a sur eux et de ressentir que du coup, elle génère un ressenti de sérénité en eux et du coup, de pouvoir s'approprier du coup cette capacité à retoucher ce ressenti et à se poser dedans.
J'ai l'impression que la sophrologie permet d'apprendre à accueillir ses émotions sans pour autant les rejeter, d'apprendre en fait à les gérer et à en faire quelque chose. Alors au final, est-ce qu'on peut effectivement éradiquer la peur, qui peut être une émotion ? Est-ce qu'on arrive vraiment à s'en débarrasser ou est-ce qu'on apprend à faire avec ?
L'idée en fait, c'est pas d'éradiquer la peur, c'est pas l'intention. L'idée, c'est de, dans un premier temps, c'est de maîtriser son stress, de gérer son émotion. À partir du moment où on va défocaliser notre attention de la peur et qu'on va tourner notre attention vers justement cette ressource que peut être la sérénité ou la confiance ou la maîtrise, à partir de ce moment-là, en fait, vous allez nourrir autre chose. Donc en fait, c'est une énergie, c'est une nourriture que vous ne donnez pas à la peur. Donc en fait, au fur et à mesure, la confiance prend de plus en plus de place et la peur diminue. Et il y a un moment où naturellement, en fait, cette peur disparaît. Mais l'intention n'est pas d'éradiquer la peur. L'intention, elle est de gagner en confiance. Et le fait de gagner en confiance va faire que, ben, en fait, la peur, elle a plus sa raison d'être. Après, en tant que sophrologue, c'est plus facile de pouvoir utiliser un certain nombre d'outils. Toujours très simples, quoi. Donc, respiration, concentration sur la respiration, les inviter à relâcher, à détendre un peu, s'ils peuvent, certains ne peuvent pas.
Est-ce que ça vaut le coup, franchement, de se morfondre dans son coin et de subir son vol ? Moi, depuis quelque temps, je lève la main ou je vais un petit peu à la rencontre de l'équipage de l'avion dans lequel je suis et j'annonce ma peur. Et généralement, je rencontre beaucoup de bienveillance et ça me fait beaucoup de bien, en fait.
Quelque chose qui ressort souvent pendant les stages, c'est-à-dire vraiment les stagiaires qui disent « mais nous, on n'a pas envie de vous déranger ». Sauf que ça fait partie du cœur du métier. Les personnes qui ont choisi ce métier, moi-même, j'ai choisi ce métier pas que pour voyager. J'ai choisi ce métier parce que j'aime les gens, j'aime m'occuper des gens. Donc, et on a tous cette forme d'attention assez naturelle. Donc, si quelqu'un vient nous voir et nous dit « je suis pas super à l'aise » ou quoi que ce soit, on va toujours l'accueillir avec beaucoup de bienveillance. Après, ça, en fonction du vol, de la durée du vol, on sera plus ou moins disponible. Sur un vol long courrier, il y a toute la latitude. Sur un Paris-Genève, ce sera peut-être plus compliqué. Mais malgré tout, on sera là. Si soi-même, on n'est pas dans la zone où est ce passager, on va passer le relais à l'autre collègue. Et puis simplement, tout en faisant le service, en posant un regard, en faisant un sourire, la personne, elle sait qu'on est là. Et donc, ouais, moi, j'invite vraiment. Il faut, j'aime pas dire il faut, mais vraiment, il faut pas avoir peur de dire et de se manifester, ouais. Bien au contraire.
Alors, il n'y a pas que la sophrologie pour traiter, pour gérer et pour mieux vivre sa peur de l'avion. Il y en a plein, des techniques. Une approche qui a été choisie et retenue par Air France dans le cadre de ce stage « Apprivoiser l'avion », c'est l'hypnose. L'hypnose, moi perso, ça me faisait un petit peu peur. Je suis pas très très fière de dire ça, mais j'avoue que j'en avais une vision un peu mystique et du coup, j'y accordais pas une grande confiance, alors que j'ai entendu plein d'histoires assez exceptionnelles qui montrent que ça marche vraiment. Je pense notamment à l'arrêt du tabac ou à la gestion, en fait, effectivement, de phobies. Alors j'ai demandé à Karine Valade, qui est elle aussi PNC, qui est sophrologue et hypnopraticienne, de nous expliquer en quoi ça consiste l'hypnose. C'est pas de la magie, c'est pas un truc sur la scène, comment ça se passe ?
Alors en fait, effectivement, elle est très connue aussi par l'hypnose de spectacle, que l'on retrouve en France dans certaines émissions, notamment peut-être aussi dans la rue. Parfois, on a de l'hypnose de rue qui s'est pas mal développée, mais pour laquelle, effectivement, on a à peu près 10% des personnes qui vont être réceptives seulement. Donc, effectivement, souvent, au cours de ces spectacles, l'hypnotiseur, donc, va aller chercher à travers différents petits tests assez simples et ludiques, les personnes les plus réceptives pour les faire monter sur scène. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas réceptives, mais il faut effectivement quand même être assez à l'aise avec le fait de monter sur une estrade, le fait de se mettre un petit peu en avant sur un spectacle. Pour le reste, alors on a différents courants d'hypnose. Moi, je pratique l'hypnose ericksonienne, donc qui a été créée par Milton Erickson, qui était un psychiatre américain, pour laquelle on a à peu près 90% des gens qui sont réceptifs. L'hypnose, en fait, c'est un état de conscience que l'on a quand on est, par exemple, dans la Lune. Vous savez, quand on dit « Oh là là, je suis dans la Lune, je suis là, mais sans être là. » Je suis dans un train, par exemple, et je suis bien dans ce train et je regarde les paysages défiler, mais sans finalement vraiment les voir. Je suis vraiment dans un état de conscience un petit peu modifié. Et c'est cet état qu'on va aller rechercher dans le travail et dans l'application de cette technique.
Alors, la sophrologie, c'est des outils qu'on peut utiliser et ressolliciter dans des situations, dans des difficultés pour gérer ce stress. J'ai l'impression que l'hypnose, c'est une approche qui va venir compléter celle de la sophrologie et les outils que celle-ci va apporter à la personne qui souffre de peur, par exemple. J'ai demandé à Karine Valade de m'expliquer à quoi ça ressemble, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans une séance d'hypnose.
En début de séance, on va avoir un échange qui va être intéressant donc entre la personne, l'hypnopraticien, et donc notre client, pour voir déjà quel est le motif de sa visite, bien évidemment. S'il s'agit d'une peur de l'avion, on va identifier depuis quand elle est là, qu'est-ce qu'il s'est passé, est-ce qu'elle est liée à un événement particulier. Et pendant toute la séance, la personne sera consciente, on ne dort pas, on est tout à fait conscient de ce qui se passe, on se souviendra complètement de la séance, on se souviendra de tout ce qui s'est passé, mais on va aller chercher dans les ressources de l'inconscient. On dit que l'inconscient est un réservoir de ressources et on va aller chercher des choses qui sont un petit peu différentes de d'autres techniques, puisque là, on va aller identifier des choses qui vont pouvoir nous aider à faire en sorte de pouvoir mieux gérer la peur en avion. Alors, la personne va pouvoir parler, peut-être qu'on va seulement la guider par notre voix et faire des suggestions. On va remplacer en fait les suggestions négatives que se fait la personne dans son quotidien, dans l'appréhension de l'avion, par des suggestions positives, notamment, et en ancrant toujours des ressources positives. On va vraiment travailler sur des ressources de détente pour aller les ancrer durablement, pour vivre au mieux ensuite le voyage en avion.
étant complètement novice avec l'une comme l'autre de ces techniques, l'impression que ça m'a donnée en discutant avec Paolo Chavez et Karine Valade, c'est que l'accompagnement en sophrologie est plus un accompagnement au long cours qu'on peut appliquer dans une multitude de difficultés, de situations de la vie, tandis que l'hypnose est peut-être un accompagnement plus durable et peut-être une fois pour toutes, je me débarrasse de cette phobie, une fois pour toutes, je me débarrasse de cette addiction par exemple.
En tout cas, l'accompagnement en hypnose en général est un peu plus court. On est parfois sur une, deux séances, trois séances sur une peur de l'avion par exemple. Et ce sont des séances, alors au même titre par contre que la sophrologie, que pour certaines on va pouvoir enregistrer, qui vont aider, on va du coup après travailler en auto-hypnose puisqu'on va pouvoir réécouter ce qui s'est passé en séance. Alors pas pour toutes les séances, pas pour les séances par exemple où on va traiter d'un traumatisme notamment, mais pour les autres séances on peut tout à fait enregistrer et avoir un cet effet qui va perdurer au long cours, ou en tout cas si on a le doute qui revient, réécouter à ce moment-là la séance. Après, effectivement, on est souvent dans ce type d'accompagnement, il n'y a pas besoin de piqûre de rappel. Après, si effectivement, entre-temps, il se passe quelque chose, des turbulences qui ont été mal vécues, par exemple, on peut tout à fait faire un rappel si c'est nécessaire.
Est-ce que vous connaissez du coup d'autres techniques? Enfin, j'imagine que le stage combine d'autres techniques en plus de la sophrologie pour aider les stagiaires à vaincre leurs peurs.
Alors, il y a toutes effectivement les techniques de relaxation hein, qui sont travaillées, les techniques de respiration hein, qui vont être aussi importantes. S'il y a un traumatisme, on a aussi des techniques qui fonctionnent très bien, qui sont pratiquées par des psychiatres et qui sont le MDR, par exemple, avec le retraitement de l'information par le mouvement oculaire, pour faire ça extrêmement simplement. Il s'agit d'une technique qui va permettre de reprogrammer l'événement alors pas de reprogrammer tout à fait l'événement, mais en tout cas d'enlever l'émotion négative qui est liée à un événement. Ça peut être un traumatisme, il y a des fortes turbulences par exemple, et donc on va toujours parler de cet événement-là, mais en enlevant l'émotion négative qui est associée, pour que ce soit plus acceptable pour la personne. Et ça va se travailler avec le mouvement des yeux. C'est une technique qui a été découverte par Francine Shapiro et qui a beaucoup travaillé avec les vétérans américains d'ailleurs.
Est-ce que du coup, dans votre expérience, il faut combiner plusieurs techniques pour réussir à vaincre la peur?
Pas forcément, non. On peut tout à fait avoir un accompagnement en hypnose. On peut avoir aussi simplement un accompagnement sophrologique. Cela va dépendre vraiment des personnes qui viennent nous voir. Après, quand c'est un traumatisme très ancré, effectivement, on va avoir aussi l'accompagnement d'un psychothérapeute, peut-être d'un psychiatre éventuellement. Mais tout dépend de ce qui s'est passé avant et pourquoi cette peur est là.
On est au début, voire au milieu de l'été. Beaucoup d'entre nous, expatriés francophones ou tout simplement amoureux du voyage, nous sommes remis en avant. Nous sommes remis en mouvement. Certains d'entre vous nous écoutent peut-être depuis la France ou leur lieu de vacances. Et d'autres sont en train de préparer, peut-être avec un peu d'anxiété et d'appréhension, leur voyage. J'ai demandé à la Dream Team, à ces deux pilotes, ces trois PNC, ce sophrologue, cette hypnopraticienne, ce psychologue, de nous partager en fait leurs tips, leurs conseils pour passer un bon vol malgré le stress.
Avant de répondre complètement, il faut bien préciser que l'année et demie dont vous parlez fait référence à la pandémie du Covid, hein, où on est encore sur un changement caractérisé qui touche tout le monde, sur beaucoup d'incertitudes, alors un peu moins maintenant depuis qu'il y a les vaccins, et encore une fois, on va trimballer ça dans ses bagages aussi. Hein, donc c'est pas le seul fait de reprendre l'avion qui peut nous mettre en stress voire en appréhension, c'est tout ce avec quoi effectivement on embarque pour l'été, pour la reprise des vols, surtout si c'est dans le cadre d'une expatriation où on revient chez soi, vers ses amis, sa famille, son lieu de naissance, c'est absolument fondamental de se projeter virtuellement, au-delà de l'avion déjà. Moi, je ferme les yeux, 2 minutes, j'essaye d'oublier, alors c'est très compliqué, hein, parce qu'il est en plein milieu de notre visuel, hein, quand on a peur de l'avion, mais j'essaye d'oublier l'avion, je l'ai déjà fait, je verrai bientôt, si ça s'est bien ou mal passé par rapport à mes attentes et à tout ce que j'ai anxieusement anticipé. Mais voilà, je suis déjà arrivé, voilà, j'y suis, et je m'imprègne d'une odeur, je retrouve le sourire d'une grand-mère, d'une amie d'enfance. Voilà, ça c'est l'ambiance typiquement française et qu'il n'y a pas aux États-Unis, d'un bistrot. Voyez, toutes ces petites connotations sensorielles, émotionnelles bien sûr, qui ont la capacité de nous porter. Alors, pas complètement de nous transporter, ça, l'avion s'en occupera, mais déjà de nous porter un peu vers cet après moment compliqué. Ça, c'est des techniques qu'on utilise en sophrologie, hein. Pour parler en public, par exemple. On se projette au-delà de l'événement tant attendu, voire tant redouté, pour, en rebroussant chemin virtuellement, se retrouver à peu près à la hauteur face à la situation qui va se présenter à nous et qu'on appréhende. Donc ça, c'est important. Pour le voyage lui-même, des vêtements très confortables, avec lesquels on est très à l'aise, qu'on aime bien, un peu fétiche, pourquoi pas. Avoir constitué sa petite boîte à outils de distraction, au sens premier du terme. Si vous restez effectivement comme vous, le regard rivé sur le trajet du petit avion sur votre écran ou celui de votre voisin, pendant qu'il avance votre avion à 900 km/h, vous avez l'impression qu'il ne bouge pas d'un pouce, puisque vous êtes constamment les yeux rivés dessus. Vous voyez, donc des jeux, des puzzles, du coloriage, évidemment des films, des séries, une compile musique, des exercices de relaxation, de la méditation, puisqu'il y a ça à bord des vols d'Air France. S'équiper, faire le constat que vous allez rencontrer bientôt une situation dont vous imaginez qu'elle va être difficile pour vous, puisque vous l'anticipez anxieusement depuis tellement longtemps, vous actez cette évidence-là. Et en prenant acte, vous essayez rationnellement à ce moment-là de dire, voilà, de quoi je pourrais avoir bien besoin pour m'aider à surmonter ce truc qui me paraît très difficile. Donc je me projette au-delà, je me vois déjà dans ma famille, avec mes amis, dans la piscine de la villa qu'on a louée, avec les potes qu'on retrouve, enfin, toutes ces situations qui peuvent nous, encore une fois, nous transcender un petit peu. Et puis pour l'événement lui-même, le kit vêtements confortables, confort et distraction, c'est, et puis le dire, monter à bord en le disant, voilà, ça fait un moment que j'ai pas repris l'avion, j'ai toujours des appréhensions, voilà, etc., etc.
Alors évidemment, le plus simple, c'est de faire un stage anti-stress. Il y a le volet psychologue, il y a le volet sophrologue, il y a le volet PNC, il y a le volet pilote, il y a le volet technique, il y a le volet simulateur, il y a le volet debriefing, il y a le volet suivi si possible. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très, très complet. Comme on avait dit, les 600 clients que nous avons, bah, chacun sa menace. Et en fait, on ne sait pas, et il se peut même que le client ne sait pas quelle est sa menace. C'est pour ça que, bah, étant un stage très complet, ça permet de, vraiment d'aller au fond des choses. Ensuite, bah, pour quelqu'un qui ne peut pas faire le stage parce qu'il n'est pas en France ou pas de temps, ou etc., bah, il y a plein de choses. Il y a des vidéos YouTube que j'ai faites. Il y a d'autres personnes qui ont fait des vidéos YouTube, mais vous pouvez consulter des vidéos YouTube. Mais effectivement, il y a plein de sites, il y a plein d'applications également, de relaxation qui sont disponibles. Mais je pense que la connaissance technique et aéronautique est quand même la plus, enfin, comme base pour commencer, c'est quand même bien. Pourquoi l'humain a peur de l'avion et que la peur de l'avion, c'est normal, voire attendu d'un passager. C'est quelque chose de tout à fait normal et que tout le monde partage, même si parfois les gens, ils avouent pas. C'est quand même parfois très difficile pour quelqu'un qui voyage beaucoup. Quand il y a beaucoup de pression de la famille ou du travail, ou même nous avons également des stars, des politiques, des PDG qui viennent et qui ont du mal à s'exprimer. Et c'est pour ça que le volet psychologue également permet à ces gens-là, juste en tête à tête, de pouvoir s'exprimer librement. Parce que d'habitude, ces personnes-là, ils sont entourés des gardes de corps, des secrétaires, des chauffeurs, des choses comme ça. Et du coup, ils sont souvent dans une position où ils ne peuvent pas un peu avouer la porte d'avion.
penser déjà à leur lieu de vacances, penser à ce pourquoi ils se déplacent, peut leur permettre déjà de lâcher un petit peu la pression, parce que c'est peut-être pour partir en vacances, c'est peut-être aussi pour revoir des gens qu'ils n'ont pas vus, comme vous le disiez, à cause de la pandémie depuis plus d'un an. Donc pensez à évoquer ces moments heureux là qui les attendent justement à l'arrivée de leur vol. Pensez aussi, alors parfois on a des clients justement qui sont très stressés et qui en fait disent mais je m'ennuie, j'ai rien à faire dans l'avion. Mais si, on a plein de choses à faire dans l'avion, les personnes stressées ont plein de choses à faire dans l'avion, et justement à apprendre à lâcher prise. Et ça, ça passe aussi par des exercices qu'ils peuvent mettre en place, des exercices simples de respiration, de cohérence cardiaque, des choses vraiment simples à mettre en place. Ou amener des choses aussi qui leur font plaisir dans l'avion. Amener une musique qui leur qui est évocatrice pour eux de sérénité ou de bien-être. Et préparer ce voyage minutieusement pour faire des choses qu'on n'a peut-être pas du coup le temps de faire dans notre vie qui va plutôt à 100 à l'heure. Mais justement prendre ce temps-là, ces 6 heures, ces 8 heures, ces 12 heures de vol pour se faire du bien. Cela permet aussi à la peur de s'estomper assez facilement, finalement.
Pourquoi pas essayer un petit avion ? Pourquoi pas faire un baptême de l'air ? Tu vois, tu pourrais être dans le cockpit avec le pilote, voir comment ça se passe, et voir à quel point, en fait, c'est simple. À quel point t'as... la vie, en fait, il n'y a rien de magique. C'est juste quelques forces qui font l'avion voler, et voir ça. Moi, je pense que ce serait vraiment génial que les personnes puissent aller dans un cockpit d'un petit avion, un Cessna, un Robin en France ou ailleurs, dans un aéroclub, ça coûte pas très très cher, et sensation garantie.
Le conseil qui me vient, c'est de donner déjà du sens, un sens positif, à ce pourquoi ils vont prendre l'avion. C'est vraiment de pouvoir associer ce déplacement à un événement heureux, comme vous le disiez, le fait de pouvoir aller retrouver ses proches, d'être enfin rapproché après tous ces mois d'éloignement, voilà, ça crée déjà une forme de dynamique positive, et un peu dans l'idée de ce que je disais tout à l'heure par rapport à la visualisation, c'est projeter une image positive qui du coup va générer un ressenti plutôt agréable, d'être content, de joie, d'aller retrouver ces personnes. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment la première étape. Donc c'est de se projeter en donnant du sens, pourquoi je vais faire ça. Si vraiment il y a cette forme de tension, d'appréhension qui commence à monter, de pouvoir peut-être utiliser un exercice très simple comme celui de la respiration ventrale dont je parlais tout à l'heure, ou alors une respiration au carré où on va inspirer, bloquer sa respiration, souffler, et bloquer sa respiration en apnée vide sur les mêmes temps, c'est-à-dire 3 temps d'inspire, 3 temps je bloque, 3 temps d'expire et 3 temps je rebloque. Voilà, pour faire retomber un petit peu la pression, ouais, se recentrer, canaliser et du coup sentir que voilà, peut-être j'ai peur, mais j'ai aussi la capacité de gérer ça, d'avoir la main dessus. Après, c'est sûr que ça dépend de l'intensité de la peur et d'appréhension de la personne. Si la personne, elle sait qu'elle va faire ce voyage et que sa peur est vraiment élevée, j'ai envie de dire au-delà d'une échelle d'un niveau de 5 sur une échelle de 0 à 10, peut-être que justement, elle peut essayer de rencontrer un sophrologue en individuel ou en groupe pour aller acquérir un certain nombre d'outils et surtout les pratiquer. Et s'il y a vraiment du temps, en effet, de voir s'il est possible de venir suivre le stage pour avoir là tout un panel d'infos sur l'avion, sur le personnel, comment il est formé, comment il est compétent, comment il est maintenu en compétence, et aussi des outils, déjà des connaissances sur comment je fonctionne, et puis comment je peux gérer avec des outils extrêmement simples en fait et faciles à réutiliser avant et pendant le vol.
Bon, et un conseil alors pour la fin. Pour ceux qui n'ont pas forcément peur, qui ont écouté avec attention, comment est-ce qu'on peut concrètement aider celles et ceux qui ont peur ?
Ne lui dites surtout pas, mais enfin, tu sais très bien que c'est le moyen de transport le plus sûr du monde.
Pourquoi ?
Ils le savent tous. Ils le savent. Et donc, ça les énerve. Ça les énerve qu'on le leur redise.
Ça, on les conforte dans le fait de
bien sûr, parler, quoi. Mais oui, et ils savent bien que c'est pas ça le problème. Même si, dans le même temps, ils auront besoin d'être réassurés sur la sécurité aérienne, le fait que les turbulences ne peuvent pas casser ni faire tomber un avion, etc. Mais voilà, surtout pas cette formule-là. T'as plus de risques de mourir en voiture. Surtout pas. Surtout pas.
Nous, on sait que de toute façon, c'est tout un discours qui changera rien. Mais c'est vrai qu'à force de l'entendre, certains finissent par s'auto-juger et arrêter d'en parler, en fait, parce qu'ils n'ont pas envie d'être décrédibilisés dans ce qu'ils ressentent, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, ouais, des stagiaires qui disent « Ah, ça fait du bien d'être avec d'autres personnes qui vivent les choses comme moi » et ça les soulage.
En conclusion, je pense qu'il est hyper important et j'espère que vous l'aurez ressenti comme moi, il n'y a aucune honte à avoir peur de l'avion. Et je pense que c'est super important de le dire et de le redire. Il n'y a jamais aucune honte en fait à avoir peur de quoi que ce soit et l'avion ne fait pas exception. Et puisque c'est pas une honte, et bah c'est une super idée aussi d'aller demander de l'aide. On peut aller demander de l'aide en parlant autour de soi, on peut décider d'aller faire un tour sur YouTube comme je l'ai fait par exemple pour trouver une séance de sophrologie. On peut réécouter cet épisode ou le partager avec des personnes qui pourraient avoir peur et leur suggérer d'appliquer les conseils que mes invités prodiguent à la fin de cet épisode. Et si on a le temps, on peut aussi aller faire un tour du côté du stage apprivoiser l'avion proposé par Air France. Et justement, vous le savez, l'origine de ce reportage, ça a été ma peur en avion. Et j'ai l'impression que la compagnie Air France prend ma peur très au sérieux puisque je suis invitée la semaine prochaine à participer à ce stage. Je vais pouvoir le vivre de l'intérieur, je vais pouvoir discuter avec des gens qui le vivent, de leur peur, et je vais pouvoir vous embarquer avec moi dans un des simulateurs de vol, qui est donc, comme le disait Eric Adams, un outil d'éducation, un outil de formation des pilotes, dans lequel les stagiaires du Centre de gestion du stress aéronautique peuvent se rendre pour découvrir, pour comprendre et pour gérer leurs émotions et leurs ressentis. J'ai hâte de vous faire découvrir tout ça la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de cet épisode. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.